suis né dans un petit village qui a un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.
Chanter, c'est pas vivre, mais c'est l'espirer. Chanter, c'est survivre quand on est vidé, vidé de ses illusions, tout nu et tout con, essoré, déboussolé, cassé, piétiné. Adieu, François Béranger.
Plus tard, le même tracas, le même bazar, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.
Bonjour l'équipe de La Bâtie, j'y suis. Voilà, sans la musique, la vie serait une erreur, et sans Béranger, ces musiques et ces coups de gueule vont bien nous manquer. Salut à vous.
Et puis pour voir, essayez donc, sans fric de remplir Saint-Clardon, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.
Ouais, salut Daniel, c'est Philippe en Charente-Maritime. Je suis un petit peu triste parce que je viens d'apprendre que notre copain François Béranger nous avait quitté ce matin, du crabe évidemment. Et puis on est tous tristes parce que ce gars-là représentait beaucoup de choses pour nous, et puis j'ai l'impression que le peuple de gauche perd encore quelqu'un d'important. Allez, salut et fraternité à toute l'équipe.
À 15 ans, fini la belle vie, t'es plus un môme, t'es plus un petit, je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole, 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé, pour le monde on a de la tendresse, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. C'est pas fini.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à tous, bien triste journée aujourd'hui, mardi 14, la droite a encore fait des ravages, Schwarzenberg et Béranger, c'est vraiment dommage, je suis très triste, quand je dis la droite, je rigole, mais c'est une journée bien triste aujourd'hui. Dis-moi, je viens juste de penser pour Béranger, ça serait pas possible de nous passer la chanson qui dit vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur, ça serait bien, je crois. Enfin, je sais pas, c'est mon avis. Bisous à tout le monde, salut.
Après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en plein pleine.
Oui, bonjour, Philippe de Châlons-Champagne. Voilà, je viens d'apprendre le décès de M. Schwarzenberg. Moi, l'image qui me restera, c'est le 1er mai 2003. Donc, dans un champ de colza OGM, soutenu par Mgr Gaillot.
Voilà. À quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être.
De la Ciotat, là, je vous téléphone pour que, par rapport à la mort de François Béranger que j'ai appris ce matin, bon, Daniel Mermet, je pense que c'est quelqu'un que tu adores aussi, hein, et qui est très très peu connu, hein, lui, c'est un vrai chanteur français, hein, et qui a jamais été dans le business de la connerie. Alors, un petit message à François Béranger que j'adresse à tous les gens qui l'ont aimé comme moi et qui l'aimeront toute leur vie. Et j'ai remarqué un truc, tous les gens valables, ils s'en vont très vite, et les papons, les emmerdeurs, ils ne crèvent jamais. Allez, bisous à tous, à France Inter, c'est temps à l'heure de la super, au revoir.
Dans un petit village qui a un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocal, c'est le village de Saint-Martin, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né.
François Béranger, Léon Schwarzenberg, là-bas, si j'y suis, a perdu deux auditeurs. Il en reste 499 898. Accrochez-vous, accrochons-le.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour les auditeurs de là-bas, si j'y suis. J'ai beaucoup apprécié l'émission d'hier, et en particulier l'interview du chef d'entreprise israélien qui fabrique du fil de fer barbelé pour cette fameuse clôture entre la Palestine et Israël. Je l'ai trouvé comme vous, un honnête homme, sincère, raisonnable, lucide, et il m'a persuadé que cette clôture est nécessaire entre les deux pays, provisoirement, en attendant que les mentalités changent, que la haine s'atténue, et que les Palestiniens puissent construire un vrai pays, démocratique, sans corruption, et surtout sans la violence des attentats suicides. Les Israéliens, de leur côté, auront aussi à évoluer. Les négociations n'ont pas réussi jusqu'à présent et cette séparation me semble la seule solution pour éviter d'autres attentats suicides et d'autres représailles.
Oui, Daniel Marley, bonjour. Je trouvais que le reportage sur le patron, l'usine qui fabriquait le barbelé, était beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus vrai, réel, de ce que pouvait penser une majorité des Israéliens qui montraient toute la complexité, plutôt que des soi-disant experts du Moyen-Orient, qui sont à Paris ou ailleurs, et des extrémistes de tous bords, que des fois vous pouvez aussi interroger. Hein, je trouve que ce type de reportage, vous auriez dû peut-être plus le montrer il y a un an ou un an et demi. Et puis je trouve aussi, je comprends votre ironie pour plaisanter un petit peu sur la France antisémite, mais quand même, en moins de deux ans, il y a eu 450 actes antisémites en France, des synagogues brûlées, et puis des gens tabassés simplement parce qu'ils étaient juifs, et personne n'a été retrouvé et condamné, et voilà. Merci, au revoir.
Voilà, je suis pied noir, et cette situation en Israël me rappelle drôlement l'Algérie, parce que en Algérie, j'ai été obligé de choisir entre deux souffrances. La souffrance des pieds noirs, là, de mes compatriotes, et la souffrance des Arabes. Et mon choix a été douloureux, mais il a été vite fait. J'avais opté pour la souffrance des Arabes, parce que cette violence avait raison, avait des causes, notamment le mépris par lequel on tenait ce qu'on nous appelait là-bas les Arabes. Et je crois que ça, c'est un point commun pour moi avec les Algériens, avec le conflit en Algérie. Voilà. Au revoir, Daniel.
Bonjour à toute l'équipe et bravo pour vos émissions. Je suis François de Saint-Étienne. Une petite question. Savez-vous quelle différence il y a entre un barbelé pour les gens et un barbelé pour les bêtes? Réponse. L'intervalle entre les ardillons du barbelé pour les êtres humains est plus petit que la largeur d'une petite main. Ça se voit au premier coup d'œil. On en voit encore des très très vieux vestiges de certaines parties de France qui ont subi des guerres. À bientôt. Au revoir.
Monsieur Mermet, bonjour. Je trouve quand même qu'une émission sur six jours, au moins, sur la question du Moyen-Orient, nous montre un petit peu combien vous avez d'acharnement à parler de cette question. On trouve quand même moins d'acharnement, je ne vois pas d'autres mots, sur la question de la Corée du Nord, il y a un mur entre les deux d'ailleurs, hein, du Tibet. Tibet, pas un mot, pas de manif, pas de bruit, pas de cri, rien sur la Tchétchénie qui meurt en silence, et bien d'autres pays d'Afrique également qui ne sont pas tout à fait médiatiques. Je vous salue, au revoir.
Manque de chance René, ce petit argument que vous ressortez, qui fait partie de l'argumentaire des inconditionnels d'Israël, eh bien, ça marche pas avec la base où j'y suis, parce qu'en Corée du Nord, souvenez-vous, si vous êtes fidèle à l'antenne, ce qui n'est pas votre cas, eh bien, nous y sommes allés, nous avons fait une série de reportages à la frontière de la Corée du Nord et de la Chine, avec les réfugiés de Corée du Nord en Chine. La Tchétchénie, nous avons fait 4 séries de reportages en Tchétchénie, dont un particulièrement difficile sous des bombes. Vous y êtes pas croisé. Quant à l'Afrique noire, eh bien écoutez, on a fait des séries de reportages sur le Rwanda, et en 1994, nous étions présents lors du génocide et dans certains charniers de Niarobouillé, là non plus, on vous a pas croisé. Donc, je crois pas du tout que parler du conflit du Proche-Orient soit chez nous particulièrement obsessionnel. Voilà, on continue cette série de reportages le long du mur, Israël au pied du mur. Vos messages, à part certains, sont tout à fait intéressants, critiques, très critiques, défendant Israël, défendant le camp palestinien, mais toujours d'un bon niveau, à part quelques excès comme celui-là. Qui appartient d'ailleurs à des réseaux, hein. Ça fait partie des messages en réseau, mais pour l'instant ça reste minime, donc tout va bien. Je vous rappelle le numéro du répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Je comprends pas très bien la distinction que fait votre ami monsieur Warshawski sur le fait que la différence entre le mur construit là où il est aujourd'hui et le mur qui aurait été construit sur la ligne verte. Justement, ça prouve bien que cette solution de deux États séparés aurait enfermé les Palestiniens aussi, enfin que le but de cette politique qui demande un État palestinien à part et aboutirait effectivement à un style d'apartheid bantoustan comme il y avait en Afrique du Sud, et que justement la solution qui semble commencer à s'imposer à de nombreux militants qui luttent pour la paix, c'est d'un État laïque qui permet d'un État laïque sur tout le territoire de la Palestine et qui permette aux Juifs et aux Arabes de vivre en harmonie avec des gens élus, etc., sur la base de leur politique et pas sur la base de leur religion. Je pense que c'est des discussions qui ont lieu et qui commencent peut-être à venir.
Bonjour, Monsieur Collier de Genève. J'appelle au sujet des accusations de certains intellectuels qui ont traité M. Tahrir Ramadan d'antisémite. J'ai fait connaissance de ce papier dans un grand quotidien du soir daté du samedi 11 octobre et j'ai lu le papier de M. Ramadan dans le site internet mentionné dans ce journal. J'ai aussi lu les réactions des uns et des autres, notamment de ceux qui dénoncent cet article et accusent son auteur d'antisémitisme. Très honnêtement, je n'ai pas trouvé le texte de M. Ramadan antisémite. Il dénonce à juste titre ces paladins qui ne sont que l'emblème de ceux qui savent tromper avec adresse. À cela, je dis, et je cite Lincoln, « Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. » Sur le fond de la polémique, voilà pour l'essentiel ce que dénonce M. Ramadan. Depuis des décennies, messieurs Lévy, Glucksmann, Michael Roth, Adler et consorts sont présents sur la scène médiatique pour faire connaître les mauvaises actions et signaler les coupables à travers le monde, ce qui par ailleurs les honore. Mais nombreux sont les lecteurs ou auditeurs qui n'ont jamais lu un article dénonçant les exactions de la politique israélienne d'aujourd'hui ou d'hier, signé par l'un de ceux cités par M. Ramadan. Plusieurs intellectuels juifs et non-juifs de France, Israël ou d'ailleurs ont dénoncé la politique du pire du gouvernement de Sharon et les conditions de vie misérables des Palestiniens. Décrier ces pratiques communautaires est un acte d'antisémitisme. Hier, c'était Pascal Boniface, Daniel Mermeil et autres. Aujourd'hui, c'est Tahrir Ramadan. À force d'être juste, on est souvent coupable, disait Corneille. Voilà, messieurs. Merci de m'avoir entendu.
J'ai écouté le deuxième épisode de Au pied du mur. Alors on a enfin compris que c'est pas un mur, mais une clôture de barbelés. Fallait le dire tout de suite. Donc dire mur, comme le fait Ilan Halevi, risque de le faire passer, non pas pour un antisémite, Daniel, t'inquiète pas, mais pour un sacré menteur. Du coup, quand il a affirmé que la construction du mur allait permettre l'annexion de la moitié de la Cisjordanie, j'ai compulsé toutes les cartes du tracé de la barrière que j'ai pu trouver. Eh bien, c'était un mensonge délirant. Ilan Halevi, c'est vraiment pas un honnête homme. Avec ses faux mots, ses faux chiffres, et sa vraie complicité avec un vieil autocrate milliardaire. Daniel, tu penses que la barrière risque de fabriquer de la haine ? Mais la certitude, c'est qu'Arafat en a fabriqué pas mal de haine et de folie. Je l'ai entendu lancer qu'il allait marcher sur Jérusalem à la tête d'un million de martyrs. Et quand il a appelé les femmes qu'il avait réunies, mon armée de roses, Shaïda jusqu'à Jérusalem, plus fort que le Hamas, même les femmes peuvent se faire sauter. Quelle libération pour les femmes palestiniennes dont on instrumentalise les ventres pour gagner la guerre démographique. Salut.
J'appelle aujourd'hui par souvenir pour les habitants de Kibia en Palestine, massacrés le 14 octobre 1953 par la trop célèbre unité 101 de Monsieur Sharon, et pour dire que le silence des médias occidentaux aujourd'hui, tellement taxés d'être pro-palestiniens, nous révolte, que ce soit Kibia, Teplice, Oradour sur Glane, voilà des choses que nous n'admettrons jamais, pas plus que nous n'admettons d'ailleurs les attentats sanguinaires et inutiles qui terrorisent une population civile. Voilà. Mais aujourd'hui, 14 octobre, C'est malheureusement l'heure du recueillement pour Kibia et nous regrettons ces trop nombreux silences dans les médias occidentaux. Merci Daniel et bonne continuation à vous.
Ali Chat, c'est David de Pau. Voilà, je viens d'écouter une partie de l'émission sur le mur. Voilà, on y a été cet été avec un groupe de Pau sur le long du mur. On a été dans un village qui s'appelle Jaïouche. Et quand j'entends qu'il y a des auditeurs qui disent que c'est des reportages partiels et qu'il manque de l'information, je sais pas, faut pas rigoler. Jaïouche, le mur, il est à 6 km à l'est de la ligne verte, c'est-à-dire qu'on vole des terres à l'est de la ligne verte. C'est 70% des terres agricoles, 900 hectares, toute l'eau de ce village qui sont volées. Et 70% des habitants de Jaïouche, c'est un des, je sais pas combien de villages qui sont touchés par le mur, vivent de l'agriculture. Donc ces gens-là, on les laisse comme ceux de 48, sans terre, à part qu'on leur laisse des maisons en dur à la place des tentes, pour l'instant. Et pendant ce temps, il y a des militaires qui viennent aussi dans les villages, dans le village de Jaïouche, pendant qu'on y était, tirer sur les réservoirs d'eau, que t'as au-dessus des maisons. Quand tu vois le climat là-bas, la température, l'importance de l'eau, c'est des jeunes de 20 ans, 25 ans, qui viennent s'amuser à la fête foraine à dégommer les réservoirs d'eau des Palestiniens. Et ça, c'était pendant que ici, dans l'État français, on nous arrosait avec la paix, la feuille de route, tati, tata. C'est du cinéma, c'est du cinéma. Voilà, on peut pas mettre dos à dos israélien et palestinien. Il y a un occupé, un occupant, un agresseur, un agressé. Il faut ouvrir les yeux. Et nous, ce qu'on a vu aussi quand on était là-bas, au bord du mur, c'était que les Palestiniens avec qui on était à Jaïouche, les gens qui nous ont montré tout ça, qui souffrent tous les jours, les gars, ils se décrivent, et les femmes, comme peace activistes, militants pour la paix. Voilà. Bon, je suis peut-être un peu vif dans le truc, là, mais voilà, parce que j'invite tous les gens qui pensent que les Palestiniens sont des terroristes, des fous, des machins, allez voir là-bas, allez rencontrer les gens, parlez-leur. Voyez comment ils vivent. Allez, allez, chat.
Ouais. Il y a une porte dans le mur, il y a un portail dans le mur un peu plus haut. Et ça, c'est le passage officiel, mais à pied seulement. Ah. Monte sur la voiture et tire-toi de là, mais je sais pas de qui il parle. Ah, c'est les taxis. C'est le taxi, là.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Van Til, Israël au pied du mur.
Flight number 2, arriving from...
Est-ce que vous craignez pour votre vie en ce moment?
I always live with fear.
Je vis toujours avec la peur, vous savez.
From different kinds of
fear. Différentes peurs des différentes origines.
But when you live with fear so long...
Mais quand on vit avec la peur aussi longtemps,
you have to make up your mind.
Il faut se décider, il faut se faire l'idée.
Are you the master of fear?
Est-ce que vous qui êtes le maître de la peur?
Is fear the master of you?
Ou est-ce que c'est la peur qui vous commande?
So if you settle this, you are the master of fear, it's fine.
Si vous vous faites à l'idée que vous maîtrisez votre peur, ça va.
You do not make fear dictate what you do.
Il ne faut pas que la peur dicte ce que vous faites.
Cette voix, c'est celle d'un intellectuel. Un intellectuel très loin, très loin, très loin des intellectuels parisiens. Un intellectuel qui, le surcroît, est palestinien. Et oui, il n'y a pas que des terroristes palestiniens. Il y a aussi des intellectuels palestiniens. On en a au moins trouvé un. Il s'appelle Sari Nousseibé. Sari Nousseibé est le président de l'université Al-Quds de Jérusalem. Et Sari Nousseibé lutte pour essayer que le mur ne passe pas sur son université et ampute l'université de Al-Quds du tiers de la surface. C'est lui qu'on va retrouver aujourd'hui au pied du mur. Mais auparavant, on va aller faire un tour à Abu Dis. Le mur aussi, le mur encore, ce qu'on appelle l'enveloppe de Jérusalem, ce mur qui coupe toute la vie, toute la circulation au milieu de ce quartier. C'est un peu comme si on coupait brusquement la circulation entre Ivry et Paris, par exemple. Vous voyez, une porte de Paris. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Vous connaissez l'expression, c'est ainsi que les premiers sionistes fondateurs d'Israël voyaient la Palestine. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Un des premiers dirigeants de gauche, de retour d'un voyage en Galilée, disait « C'est une terre aride, je n'ai vu que des cactus, des rochers et des bédouins ». Depuis, certes, les sionistes israéliens ont dû se résigner à constater que leur terre promise était habitée. Alors, que faire en présence de cet habitant qu'on appelle des Palestiniens? Que faire? Trois possibilités. Vivre avec eux, première possibilité. Vivre à côté d'eux, deuxième possibilité. Se débarrasser d'eux, troisième possibilité. Examinons, si vous le voulez bien, ces trois possibilités. Première possibilité, vivre avec eux. Pas question. Ou, à condition qu'ils restent minoritaires. Car Israël, c'est l'État juif et démocratique, mais c'est l'État juif. Si les Palestiniens sont plus nombreux et qu'ils ont tous les droits, l'État juif perd son caractère d'État juif. Et ça, il n'en est pas question. Certes, une minorité de rêveurs, d'allumés, rêve de cette hypothèse, mais cela reviendrait à la disparition d'Israël. Cette hypothèse est une foutaise. Voyons la seconde solution. Seconde solution, vivre à côté d'eux. Eh bien, oui, mais ils ont toujours refusé le partage. Israël a toujours fait des offres généreuses aux Palestiniens, mais les Palestiniens ont toujours refusé. Les Palestiniens n'ont qu'une idée, jeter les Juifs à la mer. Les Palestiniens sont des Arabes, donc des terroristes. Il y en a de bons. Je compte parmi les gens que j'aime bien un grand avocat palestinien. Mais, en général, on se comprend. Troisième solution, se débarrasser d'eux. Se débarrasser d'eux, quelle horreur, quelle insulte, quelle souffrance d'entendre dire des choses pareilles. Vous êtes bien comme eux, eux qui nous obligent à arracher leurs oliviers, à faire sauter leurs maisons, à confisquer leurs terres, à boucler leur territoire, à leur tirer dessus, à tuer leurs enfants. Le Palestinien est sédentaire, le Palestinien est casanier, il serait beaucoup mieux ailleurs, avec d'autres Arabes comme eux, en Jordanie par exemple. Il y a déjà beaucoup de Palestiniens en Jordanie, il y a de la place en Jordanie, c'est un beau pays la Jordanie. Pourquoi reste-t-il ici? Je vous pose la question. Et bien sûr, je parle sur un ton polémique, comme vous, comme à travers les messages que nous venons d'entendre. Comment parler autrement de ce conflit, même à distance? Et ça s'entend dans vos messages. Sur le terrain, c'est très difficile. C'est très difficile de garder son sang-froid, alors ne le gardons pas. Essayons de penser en marchant, de marcher en pensant, au milieu de ces passions humaines qui sont celles des Israéliens et qui sont celles des Palestiniens. Très difficile d'introduire de la raison. Il faut se faire une raison. La raison a une place congrue, réduite dans cette affaire. Voilà pourquoi, jusqu'à 18h, là-bas si j'y suis, est en Israël et aussi dans les territoires palestiniens au pied du mur.
علمك نقل فوق معنى علية علمك لعلي يصير بالمقابر اخطارية ديمقراطية والله لكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية حبلك ولدك ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديت ارهابية يعني ضربني وبكيت
تبعني وش تكيت لما ذكرتك انك بدين نصيد وحكيت ما انتو بتخلوا ولاد صغار المحجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنه نسيت انه ساعد ضب الاهل تحت الحجار وهلا لما وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رفع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا راح اضلي انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يهدي طراسي بده يمحي واللي بيحكي كلمه بيشد ورا همه بيكون زلمه تعملوا منه رمه ومين انتو لسه يفضح بيرتو اضلوا قديش قتلتوا قديش قدمتوا امياتنا بيبكوا ادبياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا انا بقولكم مين انتو انتو كبرتوا بدلا احنا كبرنا فقر مين كبر بوسع ومين كبر بشحر صار في داعي عملتوا منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي
مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي انت ارهابي
Ah, c'est vraiment incroyable cette vision là, il est 7h du matin, ces gens qui sont en train de passer à travers le mur, il y a une gamine qui aide sa mère ou sa grand-mère à passer, et cette femme est en train d'escalader, oh oui c'est une femme assez âgée déjà, et qui est en train de passer. Aboudis, ça s'appelle cet endroit. C'est à la sortie de Jérusalem et c'est un barrage, c'est le mur, c'est le fameux mur qui continue, qui entoure, qui enveloppe Jérusalem. Alors là, on est vraiment dans l'absurdité la plus complète. Évidemment, le prétexte est la sécurité, le prétexte est d'arrêter les éventuels candidat à l'attentat suicide, mais pour autant, eh bien, ça prive toute la population palestinienne de cette banlieue de Jérusalem de circulation, tout simplement. Alors, ça veut dire ne plus pouvoir passer du tout, d'un endroit à l'autre pour aller faire ses courses, pour aller au collège, pour, comme ce professeur, ce chirurgien qu'on a rencontré, qui peut pas aller jusqu'à son hôpital pour opérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on triche, on passe à travers le mur, on passe entre les fentes du mur. Il y a des patrouilles, des patrouilles israéliennes qui passent, on attend qu'elles soient passées, et puis on s'infiltre, et puis on passe par-dessus. Et c'est une scène consternante, absurde, et humiliante.
Ça, c'est l'observatoire des barrages.
L'observatoire des barrages. Elles sont en train d'observer sur les barrages.
Good morning.
Expliquez-moi ce que vous faites là, qui vous êtes.
On est un groupe de femmes pour les droits de l'homme qui s'appelle Observatoire des barrages. Et on essaie de faire le minimum qu'on puisse faire.
En
essayant d'aider un minimum les gens. Et surtout garantir que les soldats n'en font pas plus que ce que la loi leur permet de faire.
On a une vue absolument superbe sur Jérusalem derrière, il fait beau, tout est superbe. Sauf ce mur là de béton, ces plaques de béton avec du barbelé au-dessus, c'est sale, les ordures sont pas ramassées. Là on est dans Jérusalem Est, donc il y a ce mur qui a été construit, qui continue par là. De ce côté-là, c'est quoi?
C'est très compliqué, parce que à gauche de la route, c'est la Cisjordanie. À droite de la route, c'est Jérusalem. De l'autre côté du mur, c'est la même chose. C'est-à-dire, Jérusalem, formellement, continue aussi de l'autre côté du mur. Il coupe Jérusalem. Quand à droite de la route, quand on va de ce côté, c'est la Cisjordanie. Et de ce côté, c'est Jérusalem. Donc, il y a des gens qui sont les résidents de Jérusalem, qui sont maintenant exclus de Jérusalem. Et il y a des gens qui sont pas des résidents de Jérusalem, qui se trouvent inclus dans le mur.
C'est incompréhensible. Mais ça veut dire qu'il y a des familles qui sont séparées, ça veut dire...
Parfois, selon de quel côté de la rue ils habitent, un des frères peut avoir une carte d'identité bleue, c'est-à-dire une carte d'identité de résident de Jérusalem qui leur permet d'entrer librement du côté israélien, et l'autre frère, parce qu'il était de l'autre côté de la rue, a une carte d'identité orange, et donc il est interdit d'entrer à Jérusalem.
Les bleus et les oranges.
Les bleus et les oranges, c'est très important les bleus et les oranges.
tous les matins, vous voyez tout le monde passer par-dessus le mur, par ce trou-là.
Oui, beaucoup d'écoliers qui passent par la petite...
Ah, il y a une petite fente, là.
Une petite brèche entre deux plaques de béton. Ouais. Il y a l'école qui se trouve là-bas.
Et là, c'est une vraie caricature. On voit un gars qui est de l'autre côté, dans la fente du mur, enfin, entre deux plaques de béton. Là, il y en a un autre qui passe à travers, là. On a l'impression que, de toute façon, les gens passeront.
Oui,
les gens passent quoi qu'il arrive. Et parfois, il y a la police des frontières qui se trouve en haut et qui chope les gens qui passent, mais parfois, la voilà qui arrive.
La police des frontières, là, qui passe. Ah, là, c'est la voiture de police. Qui dit quoi?
Monte sur la voiture et tire-toi de là, mais je ne sais pas de qui il parle. Ah, c'est les taxis. Voilà, il a fait un tour et il revient. Ah oui, il était. Cet homme habite à Azariya, qui se trouve là, juste une autre banlieue, juste à côté.
Là, voilà, la police revient.
Il dit, je voudrais bien vous parler, mais si je m'arrête, je me fais attraper un bébé ou autre chose.
C'est depuis quand, ça, ce mur?
Je pense à peu près un an, mais chaque fois, il s'allonge. Le mur, il y a un an, s'arrêtait là. Et là, il y avait un trou. Le mur, c'était que pour empêcher les voitures. Les gens passaient tout à fait normalement. Puis, ils ont rajouté cette partie du mur qui empêche, enfin, qui rend plus difficile le passage à pied aussi.
Mais ça, c'est pas le mur dans son aspect définitif, là.
Non. Cela fera partie, c'est ce que la presse vient de nous annoncer, de ce qu'on appelle l'enveloppe de Jérusalem, ce qui est le mur interne. Il y a le mur normal et il y a un mur qui encercle Jérusalem.
Alors, le mur qui encercle Jérusalem, ça veut dire qu'il n'y aura pas de Jérusalem capitale palestinienne.
On n'en sait rien, j'espère que ça ne marchera pas, mais ça c'est la réalité du mur tel qu'il est aujourd'hui. Quel sera le résultat des négociations, on verra, mais pour l'instant ça exclut Jérusalem de toute entité palestinienne.
Marson Watch, voilà, c'est ça, toujours en Israël, quand on désespère comme complètement, hop, il y a des femmes comme celle de Marson Watch, des militantes, des femmes qui sont là à 7h du matin, par respect pour les droits de l'homme, pour que les droits des uns et des autres soient respectés, pour être là comme des présences, comme des... Et ça console, et ça donne raison à celui qui disait, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. C'était Hölderlin qui disait ça, et elles sont là toutes les deux, et c'est des présences réconfortante. D'ailleurs, je signale que le cercle des parents, vous savez, ce reportage qui vous a beaucoup touché, de Parents Circle Families, je cite leur site .org, a répondu à vos lettres nombreuses, enfin à vos courriers, à vos mails très nombreux. Ils ont été très très touchés par les mots d'amitié que vous leur avez adressés. J'ai sous les yeux un mail signé de Aaron Barnea, par exemple, et de... voilà, je voulais vous le dire. Donc là, c'est les femmes de Marson Watch qui sont au pied du mur. Alors, je découvre que ce mur s'appelle zone de couture. Oui. De toutes les entourloupes langagières que produit ce conflit, zone de couture, je trouve que c'est pas mal du tout. On avait barrière de sécurité, provisoire de sécurité, et là, c'est zone de couture. Vu du côté palestinien, c'est, en étant poli, le mur. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous?
Architecte d'intérieur.
Et vous, qu'est-ce que vous faites?
Elle travaille au ministère de l'Environnement.
Les deux femmes qui sont...
Marsom.
Ils l'ont écrit en hébreu. Marsom, c'est un mot qui est devenu international, qui en hébreu veut dire barrage.
Vous êtes combien dans votre groupe?
160. Et les Palestiniens nous disent parfois que lorsqu'on est présent, les soldats se retiennent plus et sont moins brutaux.
Là, il y a des gamins qui arrivent, des écoliers.
Ce
qui est important aussi, c'est d'être là, de témoigner. Hein? Et il dit, il y a plein de gens qui en Israël ne sont pas du tout conscients de ce qui se passe et ne croient pas. Il faut leur montrer vraiment qu'il se passe des choses.
Vous êtes né ici, vous avez grandi ici.
Mais je suis arrivé bébé.
Est-ce que vous vous sentez sioniste?
C'est
une question difficile.
Moi,
je viens des États-Unis. Je suis venu, j'avais déjà 40 ans.
Je
me suis marié avec un Israélien, c'est pour ça que je suis arrivé. Je suis juif, ça c'est vrai, c'est clair. Je suis là et je suis content qu'il y ait un État, je suis pour qu'il y ait un État.
But I don't know what Zionism is.
Mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
Vraiment pas.
Moi j'aime beaucoup Israël. Je veux vivre ici et je n'envisage pas de vivre ailleurs. Et il faut que les Juifs aient leur État, ça ne fait pas de doute. Mais je pense qu'elle peut être plus petite. C'est un État qui peut être plus petit, il peut réduire ses frontières. Pour que les Palestiniens, il y ait aussi un État et qu'on vive côte à côte. Nous, ce qui est le pire, c'est les enfants pour l'école qui peuvent faire passer. C'est une maison dont on veut détruire la moitié parce qu'elle gêne pour la construction du mur.
Parce
qu'ils veulent que la clôture arrive juste à l'endroit où il y a une partie de la maison. Donc ils ont reçu un ordre de démolition. Et ils étaient prêts à l'exproprier, à le payer, mais personne ne
veut faire.
C'est notre chef. Il dit, par exemple, moi j'ai 6 mois avec sursis parce qu'on a trouvé quelqu'un des territoires occupés qui n'avait pas de permis dans ma voiture. Moi, par exemple, j'ai une carte d'identité de Jérusalem, mais ma femme a une carte d'identité de territoire occupé. Donc moi, je peux rentrer, mais elle ne peut pas rentrer. Elle n'a pas le droit d'habiter dans ma maison, qui se trouve du côté de Jérusalem. Dans quel monde on a vu une chose pareille? Merci à Sharon et à Bush pour tout le bon travail qu'ils font.
C'est eux
qui nous mettent dans une situation pareille.
Oui,
là, vous êtes trois Israéliens en contact, en train de parler avec des Palestiniens, mais c'est rarissime.
C'est
pas vrai. Ça dépend. Dans le quotidien, il y a très peu de contacts. Mais il y a des rencontres, il y a des colloques, où on peut se rencontrer, on se rencontre.
Comme la plupart des Israéliens ne savent absolument pas comment vivent les Palestiniens.
Pas du tout. Ils n'en ont vraiment pas la moindre idée. Et ils ne veulent pas savoir. C'est mieux de ne pas savoir. C'est très facile. On sent mieux lorsqu'on ne sait rien. C'est comme ça qu'ils le ressentent. La plupart des gens, s'ils savaient ce qui se passe, par exemple, ici, ils seraient quand même choqués.
Il y a des quantités de reportages, d'articles, de photos.
Les gens ont un filtre. Si tu ne veux pas lire Gideon Levy, qui décrit beaucoup ce qui se passe dans les territoires occupés, tu ne le lis pas. Et on peut construire toute une série de rationalisations et de « on n'a pas le choix, c'est la sécurité », et justifier tout et n'importe quoi.
dame là, regarde, une dame qui saute le mur. Une petite dame bien proprette, bien chic.
Ayant le l'habit des femmes pratiquantes.
Enfin, là on voit l'autre côté du mur, là on voit l'autre côté du mur avec des gens qui attendent pour passer. Alors je vais franchir le mur, mais c'est pas facile du tout. Hein. Attends, je vais essayer. On va franchir le mur.
Il y a une dame qui vient de l'autre côté en plus.
Le matériel ne peut pas y aller dedans. C'est juste un trou dans le mur. Il faut être souple. Hein.
Elle a laissé son sac. Ah ben elle a le cul la dame. Hop là. Voilà.
Elle est souple comme tout.
Oh là là, elle a un gros sac. Elle a une énorme charge cette femme. Elle est passée par ce trou là. Et sa charge est passée par l'autre côté des garçons qui ont aidé à passer. Et elle s'en va maintenant avec ses. Ça a l'air d'être des légumes. C'est incroyable, Max.
C'est bravo. C'est l'impression que tout le monde devient un clandestin, un contrebandier, quoi.
Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, dans le vieux jeune.
Oh là là, oh là.
Le vieux, mais il va y arriver.
C'est humiliant quand même de se retrouver à faire ça à son âge.
C'est humiliant. Humilié, quoi. C'est l'humiliation. Ça, c'est pas compté dans les morts et dans les blessés, ça, cette scène-là. Hein, c'est
ça, ça provoque la colère et une volonté de vengeance, souvent plus que les morts et les blessés.
Il est en train de se traîner, cet homme-là, sur le mur. Il va finir par passer. Les jeunes vont lui filer un coup de main. Il est humilié devant les enfants, quoi.
Si on pose leur cravate, vous avez vu, c'est aussi frappant comme image. Il y a deux, trois mecs en costume, en cravate, avec une petite attachée. Qu'est-ce qui escalade, qui monte, qui descend, qui se faufile.
C'est l'autorité par l'absurde.
C'est pour montrer tout le temps quelque chose.
L'humiliation des Palestiniens sur ce morceau du mur, ce morceau du mur qui entoure Jérusalem et coupe donc la partie palestinienne de Jérusalem. Alors non loin de là, il y a l'université Al-Quds, j'arriverai jamais à le prononcer deux fois comme ça, qui est elle aussi concernée par ce mur, puisque le tracé du mur prévoit d'amputer le territoire de cette la surface de cette université du tiers. Mais il y a quelqu'un qui se bat, qui n'est personne d'autre que le directeur de l'université, cette université Al-Quds, l'université palestinienne de Al-Quds, et c'est Sari Nousseibé. Sari Nousseibé s'est fait remarquer ces derniers temps à cause d'un projet qu'il a signé avec Ami Ayalon. Ami Ayalon est un Israélien, ancien chef des renseignements intérieurs israéliens, et tous deux, Ami Ayalon et Sari Nousseibé, ont proposé un projet de solution au conflit israélo-palestinien. Alors, des projets et des propositions, il y en a eu beaucoup, mais la leur a beaucoup de succès, fait beaucoup parler, et conteste les solutions jusque-là proposées, et notamment celle de l'autorité palestinienne. Ami Ayalon et Sari Nousseibé disent qu'il faut renoncer à une partie de nos rêves. Nous devons résister pacifiquement. J'ai dit bien, il faut renoncer à une partie de nos rêves. Et cette phrase-là, vous l'aviez entendue dans le reportage, je crois, de jeudi, l'un des premiers reportages, et ça vous a frappé. Qu'est-ce que c'est, ça, des gens qui veulent renoncer à une partie de leurs rêves? Voilà pourquoi nous sommes allés voir Sari Nousseibé, qui campe avec des étudiants, campe au sens où ils ont installé une tente et un espace sur le tracé même du mur afin de protester. Et dans cet espace, eh bien, se succèdent des conférences, des rencontres, de la musique, de toutes sortes de manifestations pour à la fois protester contre le mur, contre le tracé du mur, ce qui n'est pas la même chose, parce que si on critique le tracé, ça veut dire qu'on accepte le principe du mur, et aussi autour de ce projet signé Ami Ayalon et Sari Nousseibé pour une solution au conflit.
You know what Israel seems to be doing
ce qu'Israël semble faire.
Is something that is probably the worst system of rule by one people over another.
C'est le pire système possible de domination d'un peuple sur un autre.
That has ever been devised in human history.
Qui n'ait jamais été inventé dans l'histoire humaine.
And I don't think people realize
enough. Je pense pas que les gens comprennent encore assez bien
exactly what is happening.
Ce qui est en train de se passer ici et maintenant.
But if they go on with what they're doing.
Mais s'ils continuent sur ce chemin,
5 years from now,
dans 5 ans,
I think most of the Israelis will be disgusted by what they have done.
La plupart des Israéliens se retrouveront dégoûtés par ce qu'ils ont fait.
Even the Israelis themselves.
Les Israéliens eux-mêmes.
Because this is a wall that does not protect them.
It is a wall. C'est un mur qui les protège.
It is a wall that puts us in cages like a zoo.
C'est un mur qui nous met dans des cages comme dans un zoo.
Vous protestez contre quoi ? Contre le tracé du mur ou contre le mur ?
I think if the wall had been built along the 67 lines, I would have no problems with it.
Si le mur avait été construit le long de la frontière de 67, de la ligne verte, je n'y verrais pas de problème.
But the wall is basically being built not to protect Israel and Israelis in. It is being built around Palestinian population centers, like towns and cities.
Mais le mur n'est pas construit pour protéger Israël et les Israéliens. Il est construit tout autour des zones de population palestinienne.
So it is a wall that is almost setting up cages for the Palestinian population.
C'est un mur qui vraiment construit des cages dans lesquelles sont les villes palestiniennes.
And in many instances, like here in this particular campus, we are opposed to the way it is being constructed.
Et c'est pour ça que dans beaucoup d'endroits comme ici, on s'oppose à la manière dont il est construit.
Because here, as also in many other areas, the wall is taking Palestinian land away.
Est-ce que comme dans beaucoup d'autres endroits, ici, le mur exproprie les terres palestiniennes.
C'est-à-dire que là, il passe sur une partie de l'université.
Yes, it passes right in the middle of our campus.
Il traverse le campus même de l'université.
Confiscating almost one third of the size of our campus.
Et il confisque près d'un tiers de la surface
and
de notre campus.
Taking away our recreation grounds, football fields.
Par exemple, les terrains de football, les espaces de jeu.
Yes, and this is why we are trying. We have been trying for the last 4 weeks. To make them change it so as to keep this with us.
Et c'est pour ça que depuis 4 semaines, on se bat pour faire changer ce tracé, pouvoir garder cette partie de notre université.
Alors, ça, vous êtes aussi impliqué avec Amir Yalon dans ce que vous appelez la voix du peuple.
There are two points.
Il y a 2 points principaux.
One point is that we both believe that one of the major mistakes of the past negotiations,
un des premiers échecs qu'il y avait dans les négociations passées,
is that the negotiations have not dealt with the final status issues first.
Que des négociations avaient repoussé la question du statut final.
Uh-huh. We want to turn this upside down.
On veut retourner justement l'ordre des priorités.
We want the leaderships to negotiate the final status issues first.
Pour que les autorités négocient tout d'abord l'état final, les négociations finales.
So that we know in advance where our borders will be, what will happen to Jerusalem, to settlements.
Dès le départ, en avance, à quoi ressembleront les frontières, que deviendra Jérusalem, que fera-t-on des colonies.
And then this can be followed by a roadmap to get there.
Et après, on peut faire un plan de route. Seulement après, on peut faire un plan de route pour arriver jusqu'à ce statut final.
We believe that a roadmap without a destination leads nowhere.
Nous pensons qu'un plan de route sans une destination finale ne mène nulle part.
And our second point, which is also important,
et le second point qu'avec Amir Yalon sur lequel nous voulons insister,
is that we are trying to create pressure from below, from the grassroots.
On essaye de faire monter la pression par en bas, par la base.
And this has never been done before.
Et ça n'a jamais été fait auparavant.
And the agreements between the two sides
have always, entre les deux pays,
have always come from the leaderships or from the top.
Sont toujours venus des leaders, des chefs.
Bon, c'est pour ça que vous appelez ça la voix du peuple. Alors, il faut dire qui est Amir Yalon. C'est l'ancien chef des renseignements israéliens.
That's true.
Donc c'est une
he's an army man.
C'est un homme d'armée, c'est un militaire.
He spent all his life almost in the military, in the navy.
Il a passé presque toute sa vie dans la marine.
And the last 5 years of his career after Rabin was assassinated, the head of the internal security, Israeli security.
Et pendant les 5 dernières années de sa carrière, après que Rabin a été assassiné, il était responsable de la sécurité intérieure d'Israël.
And then he resigned before Camp David.
Et il a démissionné juste avant Camp David.
And he arrives at this plan from his own perspective, from the point of view of the interest interest of Israel.
Et il est arrivé à cet accord, à ce plan, de son propre point de vue, au nom des intérêts d'Israël.
I am personally a non-military man.
Personnellement, moi, je suis pas un militaire.
I have always been in favor of civilian resistance.
J'ai toujours été en faveur de la résistance civile.
Ça veut dire que vous désapprouvez l'affrontement militaire. Et ça veut dire que vous désapprouvez les attentats suicides, par exemple.
Yes, I have been one of the first Palestinians.
Oui, j'étais un des premiers Palestiniens.
To call against suicide attacks.
À dénoncer les attentats
and
suicides.
And also one of the first Palestinians to call against the use of violence.
Et aussi un des premiers Palestiniens à s'opposer à l'usage de la violence.
Ce qui vous fait beaucoup d'ennemis dans votre propre camp.
When I started, I was one person.
Quand j'ai commencé, j'étais tout seul.
Today, who signed my statement, there are 45,000 Palestinians in 3 months.
Maintenant, en 3 mois, il y a 45 000 Palestiniens qui ont signé cet accord.
How many Israelis?
There are about 60,000 Israelis.
Et c'est à peu près 60 000 Israéliens.
Est-ce que vous pensez que les Palestiniens qui sont séduits par les actions, par les actes du Hamas, peuvent réfléchir et venir de votre côté pour une voie pacifique et une voie négociée, une voie politique?
Well, I think there's a chance, a very good chance,
une très bonne chance même,
that the Palestinians, seeing how ruinous and totally futile,
et qui voient à quel point c'est désastreux et même futile,
the last 3 years have been,
ce qu'ont été ces 3 dernières années.
And many Palestinians will probably come to see,
beaucoup de Palestiniens,
that the same path is the path of negotiations,
que voir que le seul voie possible c'est celle des négociations.
But on condition,
mais à la seule condition,
that the negotiations be based on the final status negotiations,
que ces négociations soient basées sur un but final,
so that we know in advance,
pour qu'on sache,
the negotiations
à l'avance,
will lead to the end of occupation,
à quoi nous amènent les négociations, c'est-à-dire la fin de l'occupation,
of the territory of 67,
de les territoires de 67,
and the ability to, of us to have East Jerusalem as capital,
et le fait que les Palestiniens puissent avoir Jérusalem Est comme capitale.
Et la question des réfugiés, parce que c'est toujours la question, l'une des questions les plus sensibles, c'est la question des réfugiés. Quelle est votre position avec Ayalon?
This is the most sensitive and difficult.
C'est la question la plus délicate, mais voilà, on arrive à 18h et donc on retrouvera évidemment Sarine Ousebe sur ce point le plus important, et c'est là précisément la chute, puisque c'est là qu'il faudrait, selon lui et selon Amir Ayalon, abandonner les rêves en question. Donc vous avez compris qu'on y reviendra. Reportage et traduction Guy Vanquil, technique aujourd'hui Michel Thomas et Antoine Vidéo, ça, assistante Anne de Giaferri, répondeur Christophe Imbert, le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37, musique Koy Nguyen, c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Réclame.